Radio Capi, grand témoin.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Grand Témoin qui a l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui Monsieur l'abbé Tshibaka Tshikongo Apollinaire qui est le recteur de l'université officielle de Mbujimayi. Aujourd'hui nous allons découvrir son parcours, voilà, et puis il va nous parler de sa vision pour le développement de la région du Kasaï et en général le développement de la République démocratique du Congo. Monsieur l'abbé recteur Tshibaka Tshikongo, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à tous. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Polydor Bansunga assure la mise en onde. Excellente condition d'écoute de ce magazine Grand Témoin.
Radio Capi, Grand Témoin.
Bienvenue dans cette émission Grand Témoin qui a l'honneur de recevoir aujourd'hui M. l'abbé Apollinaire Tshibaka Tshikongo, recteur de l'université officielle de Mbujimayi. Monsieur le recteur Tshibaka, bonjour.
Bonjour, Jodine Kachama.
La première question est de savoir qui est M. l'abbé Tshibaka Tshikongo.
Un prêtre d'abord, un prêtre catholique du diocèse de Mbujimayi. Le 1er août, ça va faire 31 ans. Je suis dans de nationalité congolaise. Je suis un Moulouba de la région de Mbujimayi. Mon village d'origine, c'est Mpiana, qui est un des groupes ethniques du territoire de Ngandajika. Et voilà, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de choses à dire. Disons, prêtre. Congolais et oui. Moulouba.
D'accord. Oui. Votre nom a une signification particulière ou pas? Tshibaka Tshikongo, qu'est-ce que cela signifie?
En fait, c'est le sobriquet de mon grand-père. Okay. Mon grand-père, le véritable nom de mon grand-père, c'était Kazadi. Mais mon grand-père était polygame. Et donc Tshibaka, du verbe Kubaka, épouser. Tshibaka, c'est lui qui a épousé beaucoup de femmes.
Beaucoup de femmes.
Et puis Tshikongo, il était le chef de son village, et c'est ce Kukonga, donc c'est lui qui rassemble. En fait, c'était
un rassembleur.
Oui, rassembleur. Donc polygame et rassembleur. Donc c'est ça. Mais en fait, si vous êtes dans ma famille, j'ai deux cousins qui s'appellent eux directement Kazadi, comme mon grand-père. Et puis il y en a qui s'appelle Tshibaka Tshikongo comme le grand-père. Donc voilà, ce sont les sobriquets de mon grand-père
qui sont devenus les vôtres.
Oui.
Alors est-ce qu'on peut dire déjà, on peut comprendre par là que vous êtes vous rassemblez les gens autour de vous, vous êtes un rassembleur.
Mais pas polygame.
Précision de taille, mais pas polygame.
Oui. Bon, comme prêtre catholique, donc célibataire.
Célibataire, oui.
Et puis, le prêtre a la vocation de rassembler au nom de sa foi, au nom du Christ, au nom de l'Église.
D'accord. Alors, parlez-nous de votre petite enfance.
Moi, je suis né au village. Né à Ngandajika. Je suis né à Ngandajika le 28 octobre 1967, donc dans quelques mois, ça va me faire 58 ans. Je suis l'aîné de ma famille, mes parents sont des enseignants.
Une famille de combien d'enfants?
Disons, c'est difficile en Afrique de dire combien d'enfants. Parce que je suis le grand frère de. Je suis l'aîné de toute la famille de mon grand-père, donc je suis l'aîné d'autant, non, comme on dit toujours, je suis le grand frère de beaucoup de frères et sœurs. Donc d'accord. J'aimerais qu'on définisse la famille ici au sens africain. Donc,
d'accord, au sens plus large.
Au sens beaucoup plus large. Donc j'ai beaucoup de petits frères, beaucoup de petites sœurs.
D'accord.
Donc comme je suis l'aîné, je suis le Tshikongo, donc je ne peux pas dire c'est autant. C'est comme j'excluais tous ceux qui...
C'est ça.
Voilà, donc.
Alors, comment était votre petite enfance? Où est-ce que vous, passé votre petite enfance?
Principalement au Kasaï, comme j'ai dit, mes parents sont des enseignants, donc des enseignants en Ngandajika. Et puis, après, on a été à Kananga, où papa est allé faire des études, je crois, à partir de 1969. Et quand il a fini, en ce moment-là, ça s'appelait l'ENM, ce qui est devenu l'ISP après. Alors, on est parti de Kananga pour Mbujimayi, et papa est allé à Bukavu pour faire des études, la licence à l'ISP, parce qu'en ce moment-là, il n'y avait que le graduat au niveau du Kasaï.
Quitter le Kasaï jusqu'à Bukavu.
Oui, oui, c'était soit Bukavu, soit Lubumbashi, soit ce qui est devenu l'UPEN maintenant. Donc il y avait cette possibilité-là, et donc c'est là qu'il est allé. Et il nous a rejoint après en Mbujimayi, où il a été préfet. En ce moment-là, être gradué, c'était beaucoup plus, socialement, beaucoup plus prestigieux encore.
Tout à fait.
Donc, où je pense qu'il était à la fois préfet dans deux écoles, en ce moment-là, et puis il a été sous régent de ce qu'on appelle maintenant sous-proved, donc à Kabeya Kamonga, à Ngandanjika, Kabinda et Lubao, et puis il est resté dans l'enseignement en Mbujimayi. Et donc, on suivait donc papa. Là où il partait, c'est là qu'on partait nous aussi. Voilà, donc je peux dire, la petite enfance, elle s'est donc passée au Kasaï, donc le grand Kasaï, et notamment Ngandanjika, Mbujimayi, Kananga, et Kabinda. Et donc, c'est les milieux dans lesquels je me suis, disons, où j'ai mes racines, si je peux ainsi dire.
D'accord.
Et c'est là qu'on a pu le faire. Et puis après, c'est à Kabinda d'ailleurs que je suis entré au petit séminaire. Je suis entré au petit séminaire à Kabinda en 1981. En fait, j'avais voulu entrer un peu plus tôt quand j'ai commencé l'école secondaire. Mais, mon père s'était opposé. Il avait un grand frère prêtre et il pensait que c'était déjà suffisant.
Suffisant, il voulait pas en avoir une autre.
Mais après, j'ai dû donc y aller moi-même sans son accord. Donc, je suis allé d'ailleurs à deux semaines de vacances des Pâques. Le recteur d'alors, l'abbé Constantin Lomami, est passé dans les écoles, demander, dire qu'il avait besoin de ceux qui voulaient aller au séminaire maintenant. Et là, je suis parti. Les 3-4 premiers jours, j'y allais chaque matin. C'était à 9 kilomètres. Un prêtre qui travaillait dans les environs, donc à Lutembo, nous amenait dans sa voiture. On allait au petit séminaire, on étudiait. Et puis à midi, on revenait avec lui. Et je me présentais à la maison comme si je revenais de mon école. Puis j'ai décidé, je suis resté. J'ai envoyé un message à mes parents. Ne me cherchez pas, je suis au petit séminaire. Et quand ils sont arrivés... j'étais protégé par le recteur qui leur a dit, laissez l'enfant, il est à l'aise ici. Voilà.
Alors, et comment avez-vous découvert votre vocation à servir le Seigneur?
Là, il faut poser la question à ma mère.
Ah, ok.
Oui, il faut poser la question à maman.
C'est elle qui avait détecté en vous
Non, disons, elle dit d'abord qu'elle m'avait consacré à Dieu, donc quelques jours après ma naissance. Et puis après, elle me raconte qu'à l'âge de 3 ans, je faisais la sieste et je me suis réveillé en criant « Laissez-moi, je suis prêtre ». Il paraît que c'est à partir de ce moment-là.
Avant,
c'est ça. Voilà, donc...
Avant, c'est comme ça que tout est parti.
C'est ça, c'est que ma mère me raconte et comme les mamans ne trompent pas, donc je crois que c'est parti peut-être de là. La sieste. Et le sacerdoce. Donc, c'est parti un peu là.
Voilà,
j'aime bien faire la sieste alors. J'aime bien à midi, j'aime m'arrêter pour me reposer.
Et c'est à ce moment-là que le Seigneur vous parle, sûrement.
Oui, Dieu parle dans le sommeil.
Voilà. Et parlez-nous maintenant de votre parcours scolaire et universitaire.
Bon, un parcours simple, c'est-à-dire, comme je vous dis, mes parents sont des enseignants, donc j'ai commencé moi l'école primaire.
Tous les deux?
Oui, mes parents sont des enseignants.
Okay.
Malheureusement, ma mère continue à enseigner. Elle a 76 ans maintenant, elle est toujours enseignante.
Pourquoi elle ne va pas en retraite?
Parce que l'État ne l'envoie pas en retraite.
Okay.
Et donc, si elle part d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle a déserté, et comme
elle perd les avantages,
auxquels elle a droit et auxquels elle s'accroche. Donc, c'est ça, en fait. Donc, mes parents sont encore des enseignants actifs, malgré leur âge, leur âge avancé. Donc, j'ai commencé donc l'école primaire en Mbujimayi. En 73, moi j'ai pas fait l'école maternelle, donc
directement l'école primaire.
Oui. Et je remercie mes parents de l'avoir fait parce que moi j'ai pas appris le français à la maison. J'ai appris le français à l'école. À la maison, j'ai appris le tchouluba. Oui. Jusqu'aujourd'hui, moi j'ai pas avec mes parents, on parle en tchouluba. Ils parlent tous français, mais avec moi, on parle. Disons avec nous dans ma famille.
Oui.
on communique en Tchiluba. Donc là, je remercie mes parents de m'avoir pas envoyé à l'école maternelle. Sinon, j'aurais perdu cette grande richesse. Donc le français, moi, je l'ai appris à l'école, pas à la maison. Et donc, c'est en 73 que j'ai commencé, donc, l'école primaire. Et là, c'est au rythme des déplacements de papa. Donc, Mbujimayi, Ngandanjika, Mbujimayi, Kabinda.
Okay.
Alors, comme mes parents, ils travaillent dans l'enseignement public. Et donc, papa ne nous a jamais envoyé dans les écoles catholiques.
Et donc, okay. C'était plus dans les écoles publiques ou privées?
Dans les écoles publiques, parce que papa estimait qu'il ne pouvait pas être responsable des écoles publiques avec ses enfants dans des écoles catholiques. Or, les écoles catholiques étaient les mieux équipées. Moi, j'ai utilisé le banc pour la première fois en sixième année primaire à Kabinda. Donc, les autres, comme il était sous Proved ou sous Régède dans ces mois-là, dans des écoles de fortune, donc là où maman était directrice aussi.
Et vous mettiez à même les sols.
Oui. Moi, le banc, je l'ai utilisé pour la première fois en sixième année primaire à Kabinda. Mon école, qui est devenue malheureusement une université aujourd'hui, donc mon école primaire, mon auditoire était un auditoire d'université aujourd'hui, donc ma petite salle de classe, c'est là que j'ai utilisé le banc pour la première fois, et on était, je crois, 5 sur un banc.
C'est pas possible.
Donc, 5 sur un banc. Donc, mes amis, ils allaient dans des écoles catholiques qui étaient mieux construites, mieux équipées. Mais là, je pense que c'était les convictions de mes parents, qui ne pouvaient pas être dans des écoles publiques et envoyer leurs enfants dans d'autres réseaux. Et donc, c'est ça. Alors, comme je l'ai déjà anticipé, le petit séminaire au milieu de la deuxième année CO, alors à Kabinda, donc j'ai fini la deuxième année CO au petit séminaire à Kabinda, la troisième année, alors littéraire, au petit séminaire de Kabinda, puis papa était déplacé de Kabinda vers Mbujimayi. Donc j'ai dû donc le suivre et entrer au petit séminaire à Mbujimayi, où donc j'ai fait la quatrième, la cinquième et la sixième. L'un de mes condisciples les plus célèbres au Congo, c'est le professeur Kalouba. Donc on a fait
il est de votre promotion.
Il est de ma promotion. On a fait ensemble je les ai trouvés donc en quatrième au petit séminaire à Mbujimayi. Et après la quatrième, lui il est parti du petit séminaire.
C'est quel petit séminaire?
Lukelenge. Non, Lukelenge à Mbujimayi.
Ok. Kabwe, c'est où?
Kabwe, c'est à Kananga, à 70 kilomètres de Kananga. C'est là que j'ai fait ma philosophie. Études de philosophie, oui.
D'accord. Donc, après le petit séminaire, vous êtes allé un peu plus loin?
Après le petit séminaire, je suis entré au grand séminaire, où je suis arrivé le 15 octobre de 1985. Et j'étais tellement heureux ce jour-là que j'ai promis à Dieu de ne pas boire.
Ok.
Donc j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que je vais faire?
De ne pas boire quoi? De l'eau, de l'alcool?
De l'eau, oui. De l'alcool.
D'accord.
Donc le 15 octobre, disons, mon dernier verre de bière date du 14 octobre 1985. Donc ça va faire 40 ans.
Pourquoi avez-vous pourquoi cette décision-là?
Je ne sais pas, à cet âge-là, on a presque 18 ans, à quelques 2-3 semaines d'avoir 18 ans. Mais j'étais tellement heureux d'entrer au grand séminaire, c'était un rêve. Et puis j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors j'ai dit, bon, ça va,
je
ne prendrai plus en action des grâces, en reconnaissance. C'est des décisions qu'un enfant prend, mais finalement, après coup, vous vous dites, Dieu merci. Parce que beaucoup de gens, on peut se noyer dans un verre d'alcool plus facilement. Il est plus facile de se noyer dans un verre d'alcool que dans le fleuve Congo.
Radio Capi, grand témoin.
Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre. C'est le magazine Grand Témoin qui découvre le parcours des personnalités. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. l'abbé Chibaka Chikongo, recteur de l'université officielle de Mbujimayi. Alors, une autre question à de savoir, est-ce que vous pouvez nous parler des bons souvenirs que vous avez dans la vie et des mauvais souvenirs?
Disons, j'ai une mémoire qui garde plutôt les bons souvenirs. Les mauvais souvenirs, je n'aime pas trop
les garder.
Non, disons, je pense que c'est toxique. Disons, il faut en tirer des leçons et transformer les circonstances adverses en opportunité d'avancer. Alors, les bons souvenirs, plusieurs. Donc, on a les souvenirs de sa famille, ou peut-être je suis resté 13 ans seulement. Donc, c'est à l'âge de 13 ans que je suis parti au petit séminaire, et donc on revient désormais comme si on était un visiteur de passage. Mais les 13 années là, ça vous marque. Et le temps de l'internat, on sort de sa famille, on sort du cercle plus ou moins défini par ses parents, un cercle de filles défini par ses parents, et on devient à 13 ans responsable soi-même. Donc, je peux dire, c'était ma première révolte d'adolescent. Comme adolescent, j'ai dit, j'y vais au séminaire sans leur autorisation. Je ne regrette pas de cette révolte-là, d'avoir pris cette décision-là. Et donc, le temps au séminaire,
passant, quelle était la réaction de papa? Sûrement, il était contrarié.
Ah oui, il était contrarié. Ils sont venus au séminaire pour demander. Je les vois encore entrer sur sa Vespa rouge avec maman pour me dire, ça va, alors on rentre à la maison, tu reviens au début de l'année prochaine. J'ai dit non, je reste ici. et puis, il faut dire qu'il a fallu beaucoup d'années. C'est en 91, 92, si je me trompe pas. Je me souviens toujours de l'endroit où il me l'a dit. Il a dit, donc plusieurs années après, il m'a dit, j'accepte de te perdre, ne te perds pas, ne nous perds pas. Donc voilà. Ça je n'ai jamais oublié.
Vous n'avez jamais oublié ça?
Non, ça je n'ai jamais oublié. Et donc, il y a la vie à l'internat, c'est une vie où on apprend à vivre avec les autres. Des gens d'autres origines, vous voyez, à l'école, on en rencontre certainement. Mais là, vous vivez ensemble avec des gens qui ne sont pas... Vous êtes à Kabinda, donc vous êtes Mulumba, il y a des Songhe, il y a des Baluba Shankadi, et donc vous constituez une communauté
oui.
qui est déjà un peu interculturelle. Au grand séminaire, donc, vous découvrez l'ensemble du Kasaï, le grand Kasaï, où vous avez tous les peuples du grand Kasaï, où vous devez composer ensemble, vivre ensemble, et ça fait la beauté, n'est-ce pas, de la vie, où tout petit, on apprend à sortir d'un monde assez limité. Et puis, j'ai eu la chance, après les 3 années de philosophie à Kabwe, de venir faire ma théologie ici à Kinshasa. Ça s'appelait encore Faculté catholique de Kinshasa, et c'est devenu l'Université catholique du Congo. Et là, on a vécu au séminaire universitaire où donc on est entré dans un monde où on rencontre tout le Congo. Donc aujourd'hui, moi je peux aller dans n'importe quel coin du Congo, je trouverai un prêtre ou un laïc, ou quelqu'un qui connaît un prêtre ou un laïc avec qui j'ai fait des études aux facultés catholiques de Kinshasa. Et donc, ce sont des bons souvenirs comme ça d'enfance qui vous accompagnent. Donc, la famille, et puis les différents cadres de formation, au petit séminaire, au grand séminaire, que ce soit au Kasaï ou ici à Kinshasa. Oui.
D'accord. Et après, vous vous êtes retrouvé à Madrid. C'était toujours pour les études ou c'était pour autre chose?
Non, pas à Madrid. Plutôt au nord nord d'Espagne.
De l'Espagne.
En fait, j'étais quand on a fini la théologie ici, c'était le graduat. Donc, j'ai fait 3 années de philosophie, 3 années de théologie, puis 3 années de stage avant d'être ordonné prêtre. Et la dernière année de stage, je l'ai passée au secrétariat de Mgr Tarsis Tchouban, qui était en ce moment-là évêque de Mbujimaï. Donc il m'a ordonné prêtre le 1er août 1994. Et après 3 années, en plus de l'année de stage dans son secrétariat, et quand j'étais ordonné, donc il m'a nommé secrétaire épiscopal et de l'évêché, c'est comme ça qu'il mettait. Donc ça fait, j'ai eu la chance de travailler à ses côtés pendant 4 ans, 3 années, une année comme stagiaire et 3 années comme responsable. Et là, il m'a envoyé faire des études de théologie en Espagne. En fait, ce qui n'était pas mon choix, moi plutôt. Moi, il m'avait posé la question 2 ans avant, quelles études universitaires je voulais faire. Je lui ai dit la littérature ou la sociologie. Et il a laissé tomber. Et puis il est revenu, quelles études vous voulez faire? J'ai dit...
Il répond la même question.
Littérature ou sociologie. Mm. Et puis, mais pourquoi pas la théologie? J'ai dit, je pense que celle que j'ai faite suffit. Mm. Je lui ai même dit que le cardinal Malula n'avait pas fait plus que ça. Donc c'est suffisant, ce qui est fait au grand séminaire, pour être un bon prêtre. Puis, un jour
il n'était pas convaincu, on dirait.
Non, un jour il m'a dit, écoutez... vous allez faire la théologie à l'université Notre-Dame de Washington. Ça va? Donnez-moi les dossiers. J'ai préparé les dossiers et puis il est parti et il revient pour me dire vous n'allez plus là-bas parce que là-bas on allait vous envoyer en paroisse et en paroisse vous alliez perdre beaucoup de temps et non étudier. Vous allez étudier en Espagne, à tel endroit. Donc c'est comme ça.
C'est lui qui avait fait le choix.
Oui, oui, dans l'église, en principe, l'évêque peut vous, disons, il peut vous écouter, mais en vertu de son charisme et de sa capacité de discerner. Mm. Et je pense que Monseigneur Thibault, c'est quelqu'un qui avait une forte capacité de discernement. Je ne regrette pas les choix qu'il a fait pour moi. Après coup, j'ai compris que c'était le meilleur choix. C'était le meilleur choix. Et donc, il m'a envoyé faire des études en Espagne, à l'université de Navarre, l'université de l'Opus Dei. Mm. Donc ici, c'est la prélature, par exemple, qui a fondé Moncole, pour ceux qui connaissent l'hôpital Moncole, et qui a d'autres instituts ici. C'est là donc que j'ai fait 4 années et demie, donc 2 ans pour la licence, et 2 ans et demi pour défendre ma thèse doctorat. Et donc, je suis parti d'ici en 97, donc août 97, et le 8 mars 2002, j'avais défendu ma thèse de doctorat. Oui.
En philosophie
En théologie.
En théologie.
Oui, en théologie. Oui,
d'accord.
Oui.
Vous avez passé 4 ans aux côtés du Monseigneur Narcisse Thibault Mutshikhu.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez appris de lui? Quelles sont les valeurs que vous avez héritées de votre mentor?
Beaucoup de choses. C'est-à-dire, dans la vie, il y a des êtres exceptionnels comme Monseigneur Thibault. On n'en rencontre pas aussi souvent dans la société. Mm. Et avoir eu la chance, tout jeune, d'être choisi par lui pour travailler dans son secrétariat, y avoir passé 4 ans, on apprend à travailler. La première chose que... C'est beaucoup de choses, j'ai même écrit un texte là-dessus, mais je peux évoquer en vrac l'un ou l'autre élément qui... La première chose, c'est l'ordre. Hein. C'est un homme ordonné, qui
discipliné,
c'est-à-dire qu'il y avait un ordre du jour fixe. Donc, je pouvais vous dire, à telle heure il fait telle chose, à telle heure il mange, à telle heure il se repose, à telle heure il dit sa messe. Donc, il avait une vie ordonné, donc chronométré.
Oui.
Donc on peut imaginer, donc vous le cherchez à 20h, je peux vous dire, à 7h, il est assis à tel endroit, en train de faire telle chose. Ça va? Vous avez besoin de lui à 17h, je vous dis, là, il vient de se réveiller. Ça va? Il est maintenant il vient d'entrer dans son bureau. Et donc, une vie ordonnée, c'est pas quelqu'un qui vivait au hasard de... Non, il y avait une vie ordonnée. Mmh. La deuxième chose, c'est qu'il vivait la plume à la main. C'est un monsieur qui écrivait tout et notait tout. Ça va? Ça c'est une discipline acquise depuis le petit séminaire, où de leur temps, ils avaient l'habitude d'hier ou quoi. Mais par écrit, aujourd'hui tel jour, voici ce que je fais. Donc, il n'allait pas au lit sans avoir mis par écrit tout ce qu'il a fait pendant la journée et toutes les réflexions que cela lui a inspiré, et les engagements et les décisions qu'il doit prendre. Donc, par écrit. Donc, c'est un monsieur qui vivait la plume à la main.
À la main. J'imagine qu'il avait beaucoup de carnets remplis.
Oui. D'ailleurs, dans son bureau, vous me voyez là, devant vous, avec un bloc-notes. Donc, ça c'est... Quand je suis entré dans son bureau la première fois, le 1er novembre 1993, donc on venait de m'affecter, j'entre dans son bureau, j'étais main vide ou quoi. Il me dit, monsieur l'abbé, vous allez prendre note? J'ai dit, non. Il s'est levé, il m'a apporté trois blocs de trois dimensions. Mmh. C'est comme ça, ceux qui me connaissent. Donc, depuis 93, je me promène toujours avec un bloc-notes. Donc, toujours mettre par écrit. Et donc, là, c'était, et il en avait beaucoup. Donc, j'imagine que dans ses archives, on trouvera ça. Ce serait une mine formidable d'informations. Mmh. Et bien entendu, c'était un grand homme de foi, un homme effacé, un homme simple, mais un homme d'une intelligence, profonde, avec la capacité d'être devant vous comme un intellectuel avec qui discuter. Ça c'est la chance que vous imaginez. Vous êtes un tout petit monsieur là-bas, un petit séminariste qui vient d'arriver, et un grand homme qui a été je ne sais pas quoi, et puis dit vous allez être mon secrétaire. Donc vous pensez que bon, ici moi non, on pouvait discuter avec lui, on pouvait lui dire non, on pouvait argumenter, et donc là,
et il acceptait votre point de vue.
Quand vous l'avez convaincu, oui. Mais il discutait. Donc c'était pas un chef
qui vous impose. Non,
il discutait. D'accord. Et puis il travaillait par lui-même. C'était pas un chef paresseux. Il y a beaucoup de chefs qui sont des paresseux.
Qui attendent qu'on leur donne,
c'est-à-dire les discours qu'il lit est écrit par quelqu'un d'autre, les lettres qu'il envoie sont écrites par quelqu'un d'autre. Non. Là c'était un monsieur qui écrivait tout par lui-même. Parfois, il pouvait vous faire une faveur pour vous dire « Préparez-moi tel texte, ça va ?» Mais c'était plutôt pour vous apprendre à travailler. J'ai eu à lui préparer deux ou trois petits textes comme ça, et il les a retravaillés avec moi pour me dire « Voici comment on écrit. » De sorte que, moi, je suis recteur aujourd'hui, disons la première édition de mes discours comme recteur depuis 4 ans, ça m'a fait déjà le premier volume, on est autour de 350 pages, on va faire une nouvelle édition, on sera dans les 400 pages, c'est le texte que j'ai écrit moi-même. Ça j'ai appris de lui que, disons, on doit avoir soi-même ses idées, et on doit soi-même les mettre par écrit et non faire travailler les autres, ça va. Donc il y a donc beaucoup de choses que j'ai apprises de lui, sa capacité de toujours pousser les gens, de voir toujours le positif, ça va, c'est ça sa devise, duc in altum, toujours voir le positif dans les gens et les aider à donner le meilleur demain.
Radio Capi, grand témoin.
Bien, vous écoutez le magazine Grand Témoin qui reçoit aujourd'hui Monsieur l'abbé Chibaka Tshikongo, le recteur de l'université officielle de Mbujimayi. Nous allons souffler un tout petit peu en musique. Monsieur l'abbé, dites-moi, quels sont vos disques préférés?
Disons, je suis pas très très mélomane. Il y a un jeune là qui chante très bien, mais je pense qu'il peut donner un peu plus. Jacques Tshimankinda.
Ok. Qui fait le blues, le gospel.
Oui.
Et un mélange de Chiluba et du blues américain.
Je pense que sa théorie est très intéressante. C'est que le blues est en fait le Kassala Luba chanté par des esclaves noirs aux États-Unis. Kanala malanjo anshinge, malanjo anshinge. Bana babe na kasai, jini mianda ya kunutoela. Jiba kai kwetu, kato tani li babenda. Bakala bakubama ni kwa benda, mkulu kwa muchi. Iba kai kwenwe kasai. Kasai wa balengila, malanju wa nshinge, ye kila kila we. Baluba ni basonga, babinji ni batetela, chikapa luluwa, nuli mwaba kai. Bana babe na kasai, suki na ikulu, jiba jaka ni jaku ibaka kasai wetwe, kasai wetwe. Kasai mumuni nikuya kusaya bwana, kasai kaya kushebe ya mwana abu bwana, kasai 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 kasai.
Kasai mungwe, kasai chitu chimwe, chitu chimwe tujeza I chitu chimwe. Jumuva bakwabu bamba ni kwetu na sheba kwamba nzela kujanu kwetu. Kadijumu kebato muhanga, mukebato muhanga, nzela iliba mba nzela kai. Wimbi wa misambu wa kalakala, pepe kale kabasela yampanya wapa mulanga. Ufu wimba wambane, kwetu kulibionso, kwetu kulibionso, kasai kulibionso we. Kajinzale, imifuma mwaba kai we. Kaditutangi la ipamwa, chini tutuni wakweza, wakushula kasai wabale. Wakushula kasai wetwe, kasai ke, kasai. Tusai tonso tusara we Jiba chaka ni we Tufila ichileja Pana babenda kasai bali batanga la kamu matunga babenda Jiba chaka ni nutuweke la inka yenu laiku kasai Nukuna jitu ni mwakweza Tulasa tuhingana Mianda ingana yosu mungu hii Kasai ke tukabukipe Tukalenge shai tukabwani kachilaba chihaka
Bien, merci d'être à l'écoute du magazine Grand Témoin, un magazine qui vous présente le parcours des personnalités témoins de l'histoire du Congo. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Monsieur l'abbé Chibaka Chikongo, recteur de l'université officielle de Mbujimayi. Bien, après cette chanson, nous poursuivons cet entretien, Monsieur l'abbé. Comment vous vous êtes retrouvé à la tête de l'université officielle de Mbujimayi?
Bon, comme je vous l'ai dit, moi je suis docteur en théologie depuis 2002. Mais c'est seulement en 2015 que j'ai été nommé professeur associé à l'université officielle de Mbujimayi. Depuis 2003, quand je suis revenu au Congo, je n'avais jamais voulu enseigner malgré les sollicitations dans des institutions publiques. Je pensais que...
Vous êtes revenu au Congo après combien d'années à l'étranger?
Je suis resté 6 ans, donc... Les études, ça m'a pris arrondi 5 ans. Mmh. Et puis la dernière année, c'était les préparatifs. Là, avec la publication de la thèse, préparer la publication de la thèse. Et puis donc c'était fait. Donc j'ai fait la licence en 2 ans, le doctorat en 2 ans et demi, et puis une année pour préparer la publication de la thèse, et puis faire mes bagages, et puis je suis rentré donc. Je suis revenu depuis 2003. Et c'est 12 ans après que je suis nommé en fait, mais parce que ça ne m'avait jamais été intéressé. Ça ne m'avait jamais intéressé. Et pendant ce temps-là, j'ai enseigné plutôt au grand séminaire. Donc j'ai passé des années au Philosophat de Mbujimaï et une dizaine d'années au Théologat de Malolé, temps pendant lequel j'ai été aussi, pendant 9 ans, j'ai été le secrétaire exécutif de l'Assemblée des évêques du Grand Kasaï. Alors là, c'est des professeurs de cette université-là qui sont venus me demander de travailler avec eux. Au début, j'avais refusé, puis il y en a 3 qui sont venus chez moi au village, ils ont fait le sit-in, ils m'ont dit, nous rentrons en Mbujimaï à condition que vous acceptiez. Alors je trouvais que c'était peut-être orgueilleux de ma part de dire non. C'est comme ça que j'ai accepté. En 2013, j'ai accepté. Et puis en 2015, j'ai été nommé professeur associé. Donc j'ai commencé la démarche, disons, la vie en enseignant tout en étant à l'église, donc au grand séminaire. Et puis un jour, en 2021, le ministre d'alors, Muhindo Zangibutondo, m'a fait venir à Kinshasa pour me dire qu'il voulait me nommer recteur de cette université-là. Il m'avait dit, je ne suis pas catholique, je suis adventiste, mais tout ce qui s'est fait de bon chez nous, à Beni et Butembo, c'est autour de l'église. Et je pense que, j'ai découvert que vous êtes prêtre là-bas, je pense que vous pouvez travailler dans cette université-là. Alors je lui ai dit que j'allais demander l'autorisation de mon évêque. J'en ai parlé à mon évêque qui m'a dit oui. C'est comme ça qu'il m'a nommé le 25 juin 2021 comme recteur de cette université-là. Voilà. Donc,
c'est comme ça que tout est parti.
Oui. Des professeurs sont venus me chercher pour être leurs collègues. Puis le ministre m'a demandé un jour si je pouvais être recteur. Voilà, c'est toi.
D'accord. Et aujourd'hui, cette université sera dotée dans quelques mois des bâtiments, si on peut le dire, modernes, etc. Alors, comment vous êtes arrivé à construire, à faire tout ça, cette belle œuvre?
Il faut distinguer, il y a le projet de l'État. De l'État congolais, donc la présidence et le gouvernement, le ministère. Et puis il y a le travail qui est fait localement avec les fonds propres. Alors le ministre Muhindo Menoma m'avait justement dit, je vous nomme, et il y a de fonds pour construire l'université. Et effectivement, le 19 avril 2022, il est venu lui-même poser la première pierre du grand chantier que nous avons. Et donc l'État congolais construit pour nous 16 auditoires d'une capacité de 200 places chacun, 2 amphithéâtres d'une capacité de 400 places chacun, une salle de lecture de 60 tables, donc bibliothèque, salle de lecture, une salle d'informatique de 50 tables, 50 places, une salle de professeurs qui peut ou peuvent être à peu près 50 professeurs, une résidence pour étudiants de 154 chambres. Et donc là, c'est ça, c'est que l'État congolais construit pour nous. C'est déjà trop par rapport, parce qu'on n'avait rien avant. Donc c'est déjà trop.
C'est déjà trop.
Mais c'est peu par rapport à nos besoins. C'est-à-dire, notre université a 8000 étudiants, et donc ces auditoires, pour qu'on atteigne, disons, il nous faut encore 30 auditoires, en fait, pour pouvoir bien travailler. C'est vrai que l'université, par ses propres moyens, a construit et équipé 6 auditoires, pour la faculté de médecine, 6 auditoires de 350 places chacun. Donc là, ça se trouve aux cliniques universitaires que nous avons depuis 2023. Mais il y a d'autres facultés qui doivent, par exemple la faculté de pharmacie, c'est mieux qu'elle évolue au sein des cliniques universitaires. La faculté de santé publique, elle évolue aussi là-bas. Et donc, c'est beaucoup ce qu'on a reçu, mais nos besoins sont nombreux.
Oui,
mais c'est déjà beaucoup.
On
considère que c'est une première phase.
Et d'accord. Il y aura d'autres, oui. Monsieur l'abbé recteur, Tibakachi Kongo parle 7 langues. Vous êtes polyglotte, hein?
Non, écoutez, non, n'exagérons pas. C'est-à-dire, il y a des langues que je maîtrise, et des langues que je maîtrise, il y a le Tshiluba, comme je vous ai dit, j'ai béni mes parents pour ça. Donc, moi j'ai appris le Tshiluba à la maison, j'écris couramment le Tshiluba, donc je parle couramment le Tshiluba, donc je ne vais pas le parler en mélangeant avec le français, ça non. Il y a le français que j'ai appris à l'école, donc là il n'y a pas de problème, je maîtrise. Il y a l'espagnol, qui est l'une, je pense, j'ai
l'une
un bon niveau.
Que vous maîtrisez
oui,
bien,
parce que j'ai étudié en espagnol, et puis j'écris en espagnol, j'ai publié en espagnol, donc là, il n'y a pas de problème. Puis il y a d'autres langues un peu secondaires que j'ai apprises. Je vous ai dit qu'on a été à Cabinda, tout petit, donc j'ai appris le Kisongé, que je perds. Je peux comprendre, suivre une conversation, mais j'ai
perdu. Pas faute une de... conversation.
Non, je peux tenir, mais on perd un membre qu'on utilise pas s'atrophie,
oui,
en fait.
Oui,
hein, donc il y a ça. Il y a le lingala, comme mes parents étaient des fonctionnaires miteux par-ci par-là, et donc on apprend le lingala par là. Mais je le parle très peu, donc je comprends tout, mais je le parle très peu.
D'accord.
Il y a l'italien, ça va, je sais me débrouiller, un peu d'anglais, voilà, c'est ça. Mais sinon, l'essentiel.
Voilà, monsieur l'abbé recteur Tshibaka est initiateur et président de l'ASBEL Ditung.
Oui, Ditung.
Anganagika qui évolue dans beaucoup de domaines.
Oui.
Vous êtes dans l'agriculture, le transport, vous avez même les médias, vous avez des stations-service, des guest houses. Mais finalement, on découvre une autre casquette de monsieur l'abbé Tshibaka comme entrepreneur social ou entrepreneur tout court.
Mais je dois dire que ça, c'est l'œuvre de Dieu, c'est la providence divine. C'est-à-dire, moi, si je peux vous dire, j'ai eu deux ambitions dans ma vie, c'est être prêtre et écrire. Hein. Donc, être prêtre et écrire, voilà ce qui m'intéresse, moi, les plus. Mais mon cheminement en Espagne a mis sur ma route des personnes généreuses qui m'ont pratiquement obligé de me retrouver dans le champ social de l'aide, surtout aux communautés les plus pauvres. C'est comme ça que, disons, là on est déjà à la 19e année, en 2026 ça va faire 20 ans que l'association existe de manière formelle. Mais les activités ont commencé un peu avant, déjà en 2002, quand j'ai fini les études, il y a eu déjà des gens qui passant par nous, ont donné des Espagnols, donc des amis espagnols qui l'ont fait en 2003, et puis ça a continué jusqu'à présent, et ça nous a amené à plusieurs, je me suis retrouvé par un concours de circonstances heureuses, à la tête d'une initiative qui, dans ce petit coin-là, je pense globalement, a apporté quelque chose de positif. Pendant les dernières années, nous avons construit, par exemple, en termes d'école, on a modernisé 96 écoles primaires et secondaires. Oui, on a même construit un ISP. D'ailleurs, notre ISP, c'est un ISP en partenariat avec l'État, c'est-à-dire l'État congolais a autorisé. Et c'est nous qui fournissons les infrastructures. Et donc là, c'est un travail que l'on a fait, mais c'est généralement financé par les Espagnols, par des familles espagnoles, par des institutions espagnoles. Donc ils nous ont donc accompagnés, on a pu faire ça. Et dernièrement, d'ailleurs on est en train de construire maintenant, ça c'est grâce à une fondation congolaise, Kemesha Charity, qui dernièrement a mis à notre disposition une somme consistante, et là nous sommes en train de construire 5 nouvelles écoles. Donc ça va nous faire 101 écoles construites en 20 ans d'existence.
Toujours dans la région de Nganagika.
Et là, les derniers dons nous a permis d'aller, on est à Chilengé, Chilengé, Katanda, Kabeye Kamwanga, Miabi et Lupatapata. donc une école par territoire. Là, c'est pour ce qui est de la scolarisation. Mais nous sommes aussi dans l'agriculture, et donc là, on accompagne plusieurs associations paysannes, mais c'est autour des, d'une ferme école. Qui est là, et cette dans cette ferme école on
de Chiamba.
De Chiamba, oui. La ferme école de Chiamba
avec 200 hectares.
Oui, la ferme école, oui, oui, elle a
200 hectares, 8 tracteurs, c'est quand même
oui, mais
intéressant.
Oui, mais les tracteurs, il y a les à l'occasion du 5 chantier, on nous avait donné un vieux tracteur. En fait, on nous avait promis un nouveau. Et quand moi, j'ai donné un nouveau tracteur, on m'a apporté un vieux tracteur.
Un vieux qui ne fonctionnait pas bien ou quoi?
Et qu'on a dû, je pense, en ce moment-là, on a dépensé 7000 dollars pour le mettre en marche. Mais comme disent les Espagnols, disons, lorsqu'on vous donne gratuitement un cheval, ne dites pas qu'il a des dents pourries.
Ça va. il faut l'accepter.
Il faut l'accepter tel quel. Donc là, on a pu. Alors là aussi, on a un poulailler.
Oui.
Je pense que nous sommes le plus grand poulailler de la région de Mbujimayi. Nous produisons nous-mêmes, en fabriquant nous-mêmes l'aliment localement, l'œuf, la chair, la poule. Donc ça on le fait. Parfois, quand j'ai vu des investissements qui sont faits pour soutenir de poulaillers, vous dites c'est 200 fois ce dont moi j'ai besoin pour faire mieux que ce qu'ils font. Ça va. On a une porcherie, on a une grande palmeraie, on a des activités de pisciculture. Et donc, d'ailleurs, pratiquement en dehors de l'INERA, les facultés de sciences agronomiques, les écoles, c'est pas moi de vétérinaire, tout ça. Les gens viennent en stage chez nous, viennent apprendre chez nous. Et tout ça, la petite ferme fonctionne avec de l'énergie solaire, avec de l'énergie.
Et la chambre froide, vous avez une chambre froide, vous avez même une morgue.
Oui, parce que ça c'est un autre domaine. Donc on est aussi dans la santé. On a construit de petits centres de santé, mais on a aussi construit un grand hôpital de 100 lits. Et dans ce cadre-là, on a la première morgue dans ce cadre. Donc,
station-service aussi, des magasins.
Pour vendre nos propres produits et puis pour nous approvisionner nous-mêmes en carburant, parce qu'il faut faire tourner les tracteurs, il faut faire tourner les véhicules. Et donc vous êtes dans un milieu isolé et donc il vous faut cela.
Bien, on découvre une autre facette de Monsieur Lamé Tchibaka comme acteur de développement.
Par la grâce et la générosité des Espagnols, oui.
Vous avez des partenaires de l'autre côté.
Oui.
Alors, on s'achemine petit à petit vers la fin de cette émission. Oui. Vous avez aussi beaucoup écrit. Par exemple, là, je vois quelques œuvres littéraires.
Oui.
Au nom du père et du nègre, au pas du père et du nègre, la maison du nègre.
Maintenant, il y a le dernier, c'est au gré du père et du nègre. Mais en fait, au nom du père et du nègre.
Mais qu'est-ce que vous avez à voir avec les nègres, monsieur l'avérecteur?
Disons, pratiquement toutes mes œuvres littéraires, excepté la première où je parle du Montué et du Pygmée, tout ce qui est un peu littéraire, le mot nègre revient. Ça y est, j'ai la maison du nègre, j'ai un curé noir, et maintenant, au nom du père et du nègre, au pas du père et du nègre, au gré du père et du nègre. Au gré du père et du nègre est sorti il n'y a pas longtemps. Et en fait, les trois derniers, c'est en fait de la radio-littérature. En fait, chaque dimanche, sur les antennes de Radio Ditunga, donc notre association a aussi une radio. Qui va célébrer ses 15 ans le 17 juillet. Et donc, chaque dimanche, j'ai un programme une chronique que je tiens chaque dimanche en français et en Tchiluba. Je l'ai fait depuis septembre 2019, donc en français et en Tchiluba. Et ces chroniques-là, c'est des chroniques que j'ai lues, plus ou moins 15 minutes de chroniques, alors sur un thème spécifique. Et ce thème-là, ça m'a permis déjà, mes chroniques, ça fait déjà 3 livres. Et je crois que le premier, il y a même quelqu'un qui a écrit un article là-dessus, quelqu'un de qui a été publié, je pense, et puis il y a des mémoires là-dessus. Donc là, comme je vous disais, quand mon évêque d'alors, Monseigneur Tchiban, m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire, je voudrais faire des études des lettres. Mais il m'a envoyé faire la théologie, et béni soit Dieu.
Et à l'université, vous enseignez la théologie ou la
philosophie? Non. À l'université, il n'y a pas de... Notre université, c'est une université...
Laïque.
Elle est laïque, mais en Allemagne, les universités laïques ont des facultés de théologie et de philosophie.
Ok.
D'autant plus. Et puis, la société congolaise est pleine de pasteurs et tout ça. C'est Dieu du matin au soir. Donc, oui. Il faut de la théologie pour guérir un peu notre société, parce que le christianisme est devenu un problème, est un grand problème social ici chez nous. Mais là je donne des cours de caractère d'éthique, de méthodologie scientifique de base, de cours de bioéthique. Ça va, donc voilà un peu le domaine. Ils ont pu dégager pour moi une charge horaire compatible avec ma formation.
Bien. Grand témoin reçoit aujourd'hui l'abbé recteur Tshibaka Tshikongo, recteur de l'université officielle de Mbujimayi. On s'achemine petit à petit vers la fin de cette émission Grand témoin,
oui.
Qui vous présente le parcours des personnalités témoins de l'histoire du Congo. Alors avant de clôturer, monsieur l'abbé recteur Tshibaka Tshikongo, quelle est votre vision du développement de la région du Kasaï et de la RDC en général?
Le 1er juillet, ça va faire 140 ans depuis que l'État congolais a été proclamé à Vivi, la première capitale du Congo. Donc ça fait 140 ans que notre pays existe. Le 30 juin, ça va faire 65 ans que nous sommes indépendants. Et nous avons pensé que c'est l'occasion de nous arrêter pour voir d'où nous venons, où nous sommes et où nous partons. Et là, c'est la question du développement.
Mais en résumé, on doit connaître la vision du recteur Tshibaka, en deux mots, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Votre vision de Tshibaka, pas le recteur, c'est loin 4 ans. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de moi? Je crois que le drame du Congo, c'est le déficit de la culture du travail et malheureusement une croissance scandaleuse de la culture du vol. Et je pense que ça ne va pas parce que nous sommes des voleurs et qu'il va falloir qu'on sorte de la culture du vol, qu'on entre dans la culture du travail et ça changera. Ça y est, chez nous, le développement nous est volé depuis 1885. Malgré tous les mythes qu'on nous a vendus, le développement nous est volé.
Oui. Donc vous avez intitulé cela voler ou travailler?
Ou travailler, point d'interrogation. Un autre paradigme pour comprendre le Congo.
D'accord. Oui. Bien, pour terminer, quel héritage comptez-vous laisser aux générations futures?
Ah non, j'ai encore ça.
Non, cela ne veut pas dire que vous allez partir bientôt. Mais lorsque le moment viendra, qu'est-ce qu'on retiendra? Qu'est-ce que les générations futures...
Oh non, disons... Je dois d'abord vous faire une confession. Que vous m'ayez invité à ce programme m'a un peu surpris.
Oui.
Je dis, qui suis-je pour être invité à ce programme? Parce que ça, c'est un programme auquel on invite des personnes plutôt importantes. Donc, vous pouvez inviter, je ne sais pas moi, un ministre, un homme politique.
Et vous pensez que vous ne l'êtes pas?
Ah non, moi je suis un petit curé. Je suis un petit curé. Donc, vous pouvez inviter un évêque, un cardinal, ou un je ne sais pas. Moi, je suis un petit curé.
Oui.
Et donc, un petit curé de campagne, tout ce que je laisserai, c'est la poussière après moi. Donc, la poussière de ma tombe. Donc, il n'y a rien d'autre. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est que le plus important, c'est pas la place qu'on occupe dans la société. C'est pas la visibilité que l'on a dans la société. Le plus important, c'est le sens qu'on donne à sa vie, afin que dans le petit rayon où on a vécu, on soit un homme dont la présence est positive et dont l'absence fait souffrir. Parce que on laisse un vide qui a été positivement occupé. C'est tout ce que donc...
Écoutez, et en termes des valeurs, si on se souvient de Monsieur l'abbé Tshibaka,
le travail,
la rigueur ou pas, la discipline.
Disons, la discipline, c'est le travail.
C'est le
donc
travail.
Ça, c'est ce que moi j'ai appris de Monseigneur Tshibaka. Donc,
d'accord.
Voilà.
Bien, Monsieur l'abbé Tshibaka Tshikongo, recteur de l'université officielle de Mbujimayi.
Et prêtre de Mbujimayi. D'abord, il faut commencer par là. Parce que les recteurs, ça passe, c'est un mandat.
Oui, c'est
un mandat. Prêtre, c'est pour l'éternité.
Du diocèse de Mbujimayi.
Ah oui, je suis prêt à
dire ça. Diocèse de Mbujimayi. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir participé à Grand Témoin et à la prochaine.
Merci beaucoup. Merci.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève ce magazine Grand Témoin. Merci de l'avoir suivi. Polydor Bansunga était à la mise en onde au micro Jody Daniel Kachama. Nous avons eu le plaisir de recevoir aujourd'hui monsieur l'abbé recteur Chibaka Chikongo. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.